Sujet de discussion.
Mes auditrices et auditeurs, merci. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre espace Sujet de discussion. De quoi parlerons-nous aujourd'hui ? Mise en place en 1991 par la Conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la Francophonie, en abrégé COFEMEN, le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la COFEMEN, en abrégé PASEC, a livré récemment son dernier rapport en date dénommée PASEC 2019. Le PASEC 2019 correspond au deuxième cycle d'évaluation internationale du PASEC et s'illustre d'abord par l'évolution du nombre de pays qui est passé de 10 en 2014 à 14 en 2019 et ensuite marqué par une innovation à travers l'intégration d'une enquête sur les connaissances disciplinaires et professionnelles en langue d'enseignement et mathématiques des enseignants du primaire. Quelle leçon tirée de ce rapport, au-delà des réactions des uns et des autres, quant à la position indiquée de la Côte d'Ivoire dans ce rapport PASEC 2019, nous recevons pour en discuter deux invités, en l'occurrence messieurs Nour Bakayoko, qui est psychologue et membre de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, en abrégé OPECI. Monsieur Bakayoko, bonjour.
Bonjour.
À vos côtés, Monsieur Kwame Paulin Junior, il est coordonnateur du secrétariat exécutif du réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous, en abrégé RIPEPT. Monsieur Kwame, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Voilà, merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation.
Merci bien.
Je voudrais juste indiquer à l'endroit des auditrices et auditeurs que dans un souci d'équilibre, puisque c'est le ministère qui a été donc visé dans le bon sens, parce que le rapport lui est adressé, le ministère donc de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a été donc approché. Nous n'avons pas eu de réaction dans le sens de venir participer à ce plateau. On a essayé donc de contacter le responsable donc du PASEC Côte d'Ivoire. On n'a pas eu de réaction. Donc on va tenir donc l'échange en vous invitant aussi à mes auditrices et auditeurs à y participer pour nous faire part de vos réactions. Voilà. Mais on aura l'occasion d'entendre M. Désiré Kofi, donc, qui est responsable PASEC Côte d'Ivoire, ainsi que le directeur de cabinet de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement professionnel, M. Assoumou Cabran, dans le ton de cette émission, à travers deux éléments sonores extraits du site officiel du dit ministère. Voilà. Messieurs, en vous disant à nouveau merci de votre présence, d'avoir répondu vous positivement à cette invitation. On voudrait donc, parlant de ce PASEC 2019, commencer déjà par voir, pour que les auditrices et auditeurs nous suivent bien, hein. C'est vrai que ça a créé tout un tollé, on va le dire comme ça, voilà, tout un tollé récemment.
Un tollé, vraiment.
Mais le PASEC, pourquoi c'est important en général pour tout système éducatif ? Est-ce que ça concerne seulement la Côte d'Ivoire ? On va commencer par M. Nour Bakayoko.
Il faut savoir que le PASEC ne concerne pas seulement la Côte d'Ivoire. Ça concerne environ 14 pays dont la Côte d'Ivoire va faire partie. Et le PASEC, c'est vraiment une structure assez importante parce que cette structure-là nous permet de toucher de près les réalités de notre système éducatif. Donc de relever dans ce système-là les failles afin qu'on puisse améliorer. Donc ce rapport nous permet de nous remettre en cause et puis d'aller maintenant sur le bon pied.
Voilà, merci à vous. Je peux donc parler dans le sens que vous indiquiez. Hein. Oui. Effectivement, lorsqu'on prend le résumé exécutif donc, du document officiel, hein, c'est intitulé...
444 pages. Hein.
Voilà, mais il y a le résumé exécutif, n'est-ce pas, qui fait
exactement qui a fait 28 pages.
Que j'ai sous les yeux. Est donc intitulé « PASEC 2019, qualité des systèmes éducatifs en Afrique subsaharienne francophone, performances et environnement de l'enseignement, apprentissage au primaire ». Donc, comme vous l'indiquez, donc, c'est pour la performance des systèmes éducatifs de ces pays donc concernés. Et à votre nouveau monsieur Kwame Paulin Junior, le PASEC, à la suite de monsieur Nour Bakayoko, pourquoi c'est important pour chaque pays de l'espace francophone concerné par ce rapport-là d'y prêter attention?
Au-delà des pays francophones, il faut dire que toute politique a besoin donc d'un suivi, d'une évaluation, pour, n'est-ce pas, pouvoir donc corriger ce qu'il y a à corriger et puis conforter ce qui est positif. Et le PASEC, donc, qui est une analyse justement de certains aspects de notre système éducatif, nous permet de pouvoir soit nous remettre en cause, soit conforter donc ce qui est donc positif. Et dans l'ensemble, on ne peut que saluer l'existence donc de ce programme-là qui permet au pays d'avoir une vision extérieure, on va dire une évaluation extérieure sur ce qui se fait donc en interne ici. C'est vraiment très important pour tous les acteurs donc du système éducatif.
Alors sur ce point, lorsqu'on s'en tient à l'avant-propos du document donc officiel, hein, le résumé exécutif donc du PASEC 2019, signé par le secrétaire général de la COFEMEN. Donc, on rappelle la COFEMEN, n'est-ce pas? C'est la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie. En l'occurrence, le professeur Abdelrahman Babamoussa. Et il est écrit ceci, et je cite, « Le but de ces évaluations, parlant donc des rapports PASEC, est de fournir aux pays participants des données probantes et comparables sur les acquis et sur l'environnement d'apprentissage afin d'accompagner le pilotage des systèmes éducatifs. » Donc, en d'autres termes, c'est dans un but d'amélioration et d'aide aux différents systèmes éducatifs.
Oui, effectivement.
À ce propos, avant de revenir à vous, on va donc écouter un extrait de l'intervention du responsable PASEC Côte d'Ivoire, M. Désiré Kofi, que nous n'avons pas donc eu l'occasion de recevoir ici. On aurait souhaité l'avoir parmi nos invités. L'invitation a été lancée. Il n'y a pas eu de réaction à son niveau. Mais on voudrait donc l'écouter. L'extrait sonore que vous allez écouter à mes auditrices et auditeurs, nous l'avons obtenu en nous rendant sur le site du ministère de l'Éducation nationale pour l'extrait donc d'une vidéo qui avait été posté suite donc au tollé, qui avait suscité de la position, on ne dira pas le rang, vous saurez pourquoi je dis plutôt position et non pas rang, la position de la Côte d'Ivoire dans le rapport PASEC 2019, parce que dans ce extrait sonore, M. Désiré Kofi souligne en haut que le PASEC, ce n'est pas pour classer, mais plutôt pour aider. Alors on va écouter son extrait et puis revenir à nos invités en studio.
Contrairement à ce qui est dit, le rapport international PASEC ne fait pas mention de classement. Ce n'est pas ça l'objet du rapport international. L'objectif que vise le rapport international, et c'est pour ça que nous participons à ce rapport international, c'est de fournir des données probantes et comparables sur les acquis scolaires et sur l'environnement d'apprentissage. Donc, dans cette étude, deux dimensions ont été évaluées, la performance des élèves et le niveau des enseignants. Si on prend la performance des élèves, deux niveaux ont été évalués, en début de scolarité, la deuxième année, c'est-à-dire le CP2 ici, et en fin de scolarité. Pour l'enseignant et le technicien que je suis, ce qui est intéressant, et c'est la réaction que nous avons, quand je reçois un bulletin scolaire, la première chose que je regarde, ce n'est pas le classement, mais c'est la moyenne qu'obtient l'élève qui a ce bulletin-là. Donc, c'est la même chose quand j'entre dans un rapport. La grande question, c'est est-ce que de 2014 à 2019, nous avons progressé ou régressé? Et on se rend compte qu'en début de scolarité, la Côte d'Ivoire a progressé. Aussi bien en lecture qu'en mathématiques. En mathématiques, nous sommes passés de 30% en 2014 à 70% en 2019. Donc, c'est un progrès substantiel qui est de 500 sur 1000. Et la Côte d'Ivoire a obtenu 505, on peut le vérifier dans le rapport PASEC. Pour ce qui est du niveau des enseignants, l'évaluation a montré que l'échantillon des enseignants que nous avons évalué a un très bon niveau. La majorité des enseignants de cet échantillon se classent parmi les meilleurs. Donc, on ne peut pas dire que tout est sombre, catastrophique.
Voilà. Nous venons donc d'écouter M. Désiré Kofi, qui est donc le responsable PASEC Côte d'Ivoire. Alors, vous l'avez écouté autant que moi, chers invités, M. Nour Bakayoko et Kwame Poulin. Junior a su M. Kofi, donc il ne s'agit pas d'un classement. C'est un peu comme l'on mettrait un bulletin scolaire, n'est-ce pas? On ne regarde pas le rang. On va plutôt regarder peut-être le travail global de l'enfant. Quelle est votre réaction là-dessus par rapport à cette appréciation, cette manière de présenter la lecture qu'on doit faire de ce rapport de la part donc du responsable PASEC Côte d'Ivoire, M. Nour Bakayoko?
L'analyse que je fais de cette intervention, il vient un peu effectivement expliquer certains contours du rapport que le PASEC a produit. Maintenant, la question, c'est vrai qu'on a évolué, mais il y a quand même des failles. Et puis, c'est vrai, c'est la position que la Côte d'Ivoire occupe. Moi, j'ai dit, ce n'est pas parce qu'on a une place que c'est notre place. Donc, je me dis qu'on peut mieux faire, on peut améliorer et on peut renforcer les acquis pour que les prochains rapports soient plus probants et plus reluisants à savoir. Parce que la représentation sociale au niveau de la Côte d'Ivoire, donc ceux qui ont amplifié un peu la critique, c'est qu'ils se disent qu'il y a des pays normalement qui ne devrait pas être déjà à une position
avant la Côte d'Ivoire.
Vu un peu les infrastructures, tout ce qui a été investi, on méritait mieux. On n'a pas dit que la progression est mauvaise. Non, la progression est très bonne, mais on méritait mieux. Donc, il y a vraiment des choses à dire, à revoir. Ce qui a été fait, c'est bon, mais on peut mieux faire.
D'accord, M. Kwame Poulin, à votre niveau.
Oui, non, ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai qu'il faut peut-être mettre en exergue les petites avancées, mais il est important, je pense, de pouvoir plutôt mettre l'accent sur ce qui ne va pas. Et M. Kofi donc a parlé du CP2 et des enseignants, mais il a omis, je ne sais pas si c'est exprès, mais il a omis le CM2. Et au niveau du CM2, les données sont catastrophiques.
Vous pouvez les faire partager, s'il vous plaît.
Oui, en langue, au niveau donc du CM2, en 2014, il y avait 52% d'enfants qui n'avaient pas les compétences requises. En 2014. En 2019, c'est 73,1% d'enfants qui n'ont pas les compétences requises.
Les compétences requises, effectivement.
En mathématiques.
Mmh. Non, là, vous parlez des langues.
Oui, en langue, c'est, pardon, en langue, c'est 52% donc en 2014 et 59% en 2019.
D'accord.
En mathématiques, c'est 73% en 2014 et 43% en 2019.
Et là, nous sommes au CM2.
CM2.
Donc, c'est le dernier cycle au niveau du cycle primaire avant d'accéder au secondaire.
Tout à fait. Donc, au CM2, c'est catastrophique. Mais mieux, si nous extrapolons un peu pour dire que les élèves qui ont été évalués donc, en 2014 au CP2, normalement en 2019, doivent se trouver au CM2. Et si on regarde cette évolution-là, on se rend compte qu'en langue, ces enfants-là, il y avait 82%
de ces enfants.
Ces enfants qui n'avaient pas les compétences requises. Et en 2019, on est à 59%. Donc au niveau des langues, il y a une progression. Mais en mathématiques, c'est le contraire. En mathématiques, en 2014, les enfants qui étaient au CP2, donc, il y avait 66% qui n'avaient pas de compétences requises. Et en 2019, cette cohorte qui est arrivée donc au CM2, on a 82% qui n'ont pas les compétences requises.
Ce qui va à l'opposé de ce que M. Kofi indiquait. Voilà. Il parlait de 30% en 2014, 70% en 2019.
Bon. Non, en fait, il parle un peu en début de scolarité. Or, ce que M. Fay parle en fin de scolarité.
Et ce qui est important, justement, c'est pour nous, c'est la fin de scolarité.
C'est la fin de scolarité.
Parce qu'un enfant peut rentrer dans le circuit, dans le système, avec donc des faiblesses. Parce que, par exemple, il n'a pas fait l'école maternelle, parce qu'aujourd'hui, toutes les études montrent qu'un enfant donc, qui a eu accès donc, à l'école maternelle est plus apte donc, à affronter le CP1 et le CP2. Donc ça, on peut peut-être
corriger en cours de route.
Et si le système n'arrive pas à corriger cela en cours de route, c'est là qu'il y a problème.
Et que l'enfant arrive au secondaire avec.
L'enfant arrive au secondaire avec. Donc, en fait, il y a un souci. On a le BPC, on a le bac. Oui, donc ça se suit, en fait.
Alors, à vous écouter, c'est le schéma au fait qui se profile. Parce que vous indiquez clairement qu'en fin de cycle primaire, CM2, il y a des lacunes qui ressortent.
Il y a des lacunes.
Et que l'enfant risque de porter.
En 2014,
donc,
allez, 73% des élèves en fin de cycle, ils n'avaient pas le niveau. Et comme le passage est automatique maintenant, ils vont directement en 6e comme ça. Donc, ce qu'on dit, c'est de s'accorder sur ce qui ne va pas pour améliorer. Parce que quand on parle d'une petite progression, etc., non, on ne peut pas commencer à parler de progression lorsqu'on est en début de scolarité. On parle de progression, en fait, lorsqu'on est à la lisière de la fin de la scolarité et puis même à la fin de la scolarité. Donc, c'est là qu'il y a beaucoup de travail à faire pour que les choses puissent s'améliorer déjà en fin de scolarité du primaire pour pouvoir mieux engager le secondaire.
Voilà, si vous venez de vous connecter sur Radio de la Paix, sachez que vous êtes à l'espace sujet de discussion. Nous parlons donc aujourd'hui du rapport PASEC 2019. Nous avons donc comme invité M. Nour Bakayoko, qui est psychologue et membre de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, en abrégé OPSI, et M. Kwame Paulin Junior, qui est coordonnateur du secrétariat exécutif du réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous, en abrégé RIPEPT. Voilà. Monsieur Kwame, je reviens à vous tout à l'heure, mais je voudrais juste, pour appuyer un peu votre sentiment qui se dégage donc au niveau de nos deux invités, le sentiment qui se dégage au niveau de nos deux invités en studio ici, ce commentaire aussi qu'a fait un site internet africain, le site c'est La Tribune Afrique, en sa page éducation, qui met ceci, éducation, les bons et mauvais élèves de l'Afrique. Et voici ce que ce site donc a écrit sur la Côte d'Ivoire, je lis. C'est un résultat qui n'honore pas la première puissance économique de la zone UEMOA, même s'il faut tenir compte du contexte qui avait prévalu durant presque une décennie dans le pays et dont les répercussions sur le système éducatif vont au-delà de l'année de la réalisation de l'étude. Sur les 10 pays ayant participé à l'évaluation PASEC 2014, la Côte d'Ivoire a été classée au 8e rang pour l'éducation des enfants et pour l'éducation des filles les plus pauvres. Voilà, il rappelait déjà pour 2014 et l'article chute par ce point que nous citons aussi. La principale conclusion, c'est que pour accéder à l'émergence économique, le pays, parlant de la Côte d'Ivoire, c'est le site qui le dit, doit au préalable réformer son système éducatif en intensifiant les investissements publics et surtout en s'assurant de l'efficacité des dépenses budgétaires qui seront consacrées au secteur. Bon, on reviendra à la fin sur les recommandations, mais j'avais voulu partager ce commentaire qui n'engage que ce site pour montrer un peu aussi comment est-ce que de l'extérieur, certains observateurs ont pu réagir à cela. Alors, on va prendre un auditeur qui est en ligne. Avant de revenir à vous tout à l'heure, monsieur Kwame, allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur. Zamblé Alphonse, je vous appelle de la ville d'Oumé.
La ville de Oumé?
Oumé, oui, oui.
Oui, monsieur Zamblé, nous vous écoutons, oui. Allez-y, votre contribution.
Oui, salut les invités.
Oui.
Bon, ce classement ne m'étonne pas.
Pourquoi?
Nous qui sommes dans le pays profond, nous sommes au fait des réalités. D'abord, un, le niveau des enfants. Deux, la manière de recruter les enseignants et les grèves, soit au niveau des élèves qu'au niveau des enseignants. Quand je prends le niveau des élèves, un élève du cours moyen 2 qui ne peut même pas lire correctement une phrase. Non, c'est difficile pour lui de lire correctement une phrase. Et encore, la dictée étant supprimée, quand tu dis à un enfant d'écrire un mot, pour lui c'est le son qui compte et non l'orthographe. Ça c'est grave. Maintenant, au niveau des enseignants, le recrutement avec le BPC, mais ce BPC-là, c'est quel niveau? Un élève qui a le BPC qui ne peut même pas faire une phrase correcte, qui ne peut même pas adresser une correspondance. Et c'est ce dernier qui va enseigner nos enfants. Quel savoir va-t-il donner à nos enfants? Nous qui sommes dans le pays profond, nous sommes au fait des choses, c'est très, très difficile. Il suffit de donner quelque chose, on a le BPC, on fait quelque chose. Franchement, c'est éclairant.
D'accord.
Le niveau des enseignants n'est pas au point. Il y a encore des grèves des enseignants,
oui.
Des enfants qui vont sur le congé anticipé. Mais quels résultats nous voulons obtenir? Acceptons ce traitement afin de pouvoir nous améliorer. Merci et bonne émission.
Monsieur Zamblé, restez en ligne, s'il vous plaît, monsieur Zamblé.
Oui, je suis là.
Voilà, dites-nous, merci déjà de votre contribution. Vous êtes dans quel secteur d'activité? Que faites-vous, s'il vous plaît?
Je suis un instituteur à la retraite depuis 2006.
D'accord. Alors, j'ai posé la question parce que, à vous écouter, on sent que vous avez gros sur le cœur, mais vous êtes aussi du milieu du secteur. Vous avez souligné tout à l'heure le fait du recrutement des enseignants, comment ça se passe. Peut-être en pensant à votre époque, vous vous dites peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le système de recrutement des enseignants.
Mais je ne peux rien vous apprendre. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous savez comment ça se passe. Actuellement, ce n'est pas les méritants même qui sont admis. C'est les biais des banques.
D'accord.
C'est les biais des banques. Mm-hmm. Et ça, c'est grave. Mais c'est la médiocrité qu'on cultive dans ce pays.
D'accord. Merci, M. Zamblé. Merci de votre contribution. On va revenir à nos invités. Merci de nous suivre du côté de Oumé. Merci encore à vous, M. Zamblé.
Merci.
Alors, je reviens à vous. On va revenir tout à l'heure à notre auditeur, sûrement. Mais écoutez donc ce parent d'élève qui est ancien instituteur, donc instituteur à la retraite. Il a fustigé deux éléments selon lui, donc le niveau des enfants et le mode de recrutement des enseignants. Niveau des enfants très bas. Vous partagez cette réaction de cet auditeur, monsieur. J'ai commencé par monsieur Kwame qui avait voulu intervenir tout à l'heure d'abord.
Oui, non, c'était juste pour dire que, en fait, dans toute évaluation, on est bien obligé de comparer. Voilà, vous ne pouvez pas faire une évaluation sans comparer.
Sans comparer.
Voilà, l'essentiel de l'évaluation, c'est une comparaison. Par rapport donc aux objectifs que nous sommes fixés et par rapport aux autres. Vous comprenez? Voilà, donc le rang. Le rang, il est important. Parce que je suis convaincu que si on avait été bien classé, monsieur Kofi n'aurait pas dit la même chose. Voilà, donc c'était juste pour faire donc la petite observation. Et puis il dit que, effectivement, l'auditeur il a raison. Hein. Les deux points qu'il a, soulevés sont réels.
Vous les partagez?
Oui, la dictée a été supprimée, ça c'est connu de tous. Mm-hmm. Aujourd'hui, les enfants, on leur demande donc d'écrire le son. C'est le son qu'ils doivent écrire. Donc ne vous étonnez pas que poteau, l'enfant écrive P-O-T-O.
Oui, allez-y d'abord, monsieur. Non, mais je vais revenir sur ce point parce que
d'accord.
Pour beaucoup de personnes, ils ne comprennent pas ce choix-là. Le son par rapport à l'orthographe. Mais allez-y d'abord, monsieur. Nous, vous voulez d'abord dire quelque chose, peut-être par rapport à l'auditeur.
Oui, par rapport à ce que l'auditeur a dit. Il a parfaitement raison. Parce que ne parlons même pas même des histoires de corruption où il a supposé que les gens payent. Là, je parle même de l'enseignant qu'on recrute. C'est-à-dire, vient-il enseigner par passion ou par désespoir? Parce que très souvent, il y en a qui ont le master, etc. Donc, ils viennent passer le concours du CAFOR parce qu'il n'y a pas de travail. Donc, du coup, quand il est en train d'enseigner, il enseigne parce qu'il doit accomplir sa mission. Sinon, on n'enseigne pas avec la passion. Or, on sait que lorsqu'on fait un travail avec passion, on s'y investit autant pour que celui qui est en face puisse être satisfait du travail, notamment les élèves et tout. Donc, on ne s'étonne pas trop du bas niveau des élèves. Il y a aussi déjà ce que M. Kofi du PASEC n'a pas dit, c'est qu'on a 67% des scolarisés qui n'ont pas accès à l'éducation. Ils sont scolarisés mais n'ont pas accès à l'éducation. Pourquoi ? L'effectif pléthorique dans les classes. C'est-à-dire qu'ils sont tous en classe, mais il y a d'autres qui ont accès à l'éducation et d'autres non.
Expliquez-nous bien cette nuance, c'est intéressant, M. Noubaka. Oui, oui. Vous êtes, en plus, vous êtes psychologue. Cette nuance que vous faites donc entre avoir accès à l'éducation et avoir accès donc à la salle de classe.
À la scolarisation.
À la scolarisation, voilà. Comme vous dites, effectif pléthorique.
Scolariser un enfant, c'est le mettre à l'école. Et quand on met l'enfant à l'école, il y a une éducation. C'est-à-dire l'enseignant qui est là pour donner une éducation. Mais s'il y a un enseignant pour 100 élèves, il va obligatoirement se focaliser sur certains élèves peut-être qui répondent, etc. Donc, il y a un problème déjà de suivi personnalisé des enfants en général. Donc, il y a ce problème-là. Donc, il y a beaucoup d'élèves qui ont un bas niveau, notamment en lecture et en mathématiques. Mais là, il a beaucoup parlé des acteurs du système éducatif, mais il faut dire qu'aussi, il y a les parents d'élèves.
D'accord, alors on va y arriver. On va y arriver, mais l'auditeur déjà avait donc commencé à fustiger. Et les enfants, donc les enfants par ricochet, quelque part, la responsabilité des parents, et ce n'est pas les anciens. Mais je voudrais vous lire donc un extrait pour rester dans le ton donc, de l'analyse des grandes lignes de ce rapport. Donc, le résumé exécutif que j'ai sous les yeux. À la page 12, il est dit ceci. Quatre pays positionnent la majorité de leurs élèves au-dessus du seuil suffisant de compétences en langue. Il s'agit donc du Burundi avec 78,9%, le Gabon 66,1%, le Congo 63,3% et Madagascar 55,3%. Il est dit ceci, dans l'ensemble de ces quatre pays donc, la majorité des élèves ayant atteint le seuil suffisant de compétences se place au niveau le plus élevé de l'échelle. Cependant, de très importantes proportions d'élèves en Guinée, 76,7%, au Togo 75,6%, en Côte d'Ivoire 66,9%, au Tchad 66%, au Burkina Faso 65,8%, au Bénin 62,4% et au Cameroun 60,6% ne disposent pas des compétences leur permettant de poursuivre sans difficulté leurs apprentissages. Et là, on rejoint la remarque de M. Paulin Junior tout à l'heure.
Oui, tout à fait.
C'est des pourcentages élevés. La Côte d'Ivoire s'y trouve donc au niveau donc, de ces pays-là qui ont d'importantes proportions d'élèves, comme il est dit là, qui ne disposent pas donc, des compétences leur permettant de poursuivre sans difficulté leur apprentissage.
Tout à fait.
Est-ce que le rapport souligne ?
Oui. Mm-hmm. Le rapport donc, l'a mentionné. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que globalement, nous sommes en deçà de la moyenne, mais effectivement, il faut nuancer qu'au niveau du CP2, il y a les progressions de 2014 donc, à 2019, mais c'est catastrophique au niveau du CM2. Voilà. Donc, globalement pris, on va dire que le résultat n'est pas bon. Et donc, il faut vraiment s'attarder sur les éléments sur lesquels nous devons donc, agir pour qu'en 2025, on est donc à un niveau un peu plus intéressant en termes de pourcentage d'élèves donc, ayant les compétences requises pour avancer.
Voilà, et lorsqu'on regarde ce rapport, il y a par exemple Gabon, Madagascar, voilà, qui ont intégré ce rapport-là juste en 2014, voilà, en 2019, mentionnant compte que le Gabon et Madagascar occupent un très bon rang au niveau des compétences jugées suffisantes pour poursuivre. Donc, c'est comme l'avait dit plus haut, au lieu de voir le négatif, on pourrait rebondir sur ça pour améliorer ce qui est amélioré.
Ce qui est amélioré,
d'accord. Oui. Alors, oui, allez-y d'abord, s'il vous plaît.
Déjà, surtout en langue, vous allez voir le Gabon, Madagascar, vous allez voir qu'en langue. Parce que vous voyez, dans ces pays-là, il y a une autre faculté qui est beaucoup développée. C'est-à-dire, on parle de la littératie, pas seulement de la littérature. La littératie, c'est la faculté déjà de comprendre le langage, de s'approprier ce langage-là, de faire confiance en ce langage et d'utiliser ce langage-là pour interagir déjà avec les personnes qui sont en face. Du coup, on a la problématique déjà de la langue maternelle où il commence déjà l'enfant à habituer l'enfant à la langue maternelle, la prononciation des mots, la coordination des mots. Comme ça, quand l'enfant se retrouve à l'école, lorsqu'il apprend la langue, il peut mieux coordonner les mots, mieux s'exprimer. C'est ce qu'on appelle la littératie. On a aussi la numératie qui est pareil, c'est la même définition, mais sauf que là, c'est en mathématiques.
C'est ça.
Déjà, l'enfant à la maison, il sait qu'une pomme plus l'autre pomme, ça fait déjà deux pommes, etc. Donc, quand il arrive à l'école, c'est déjà ancré dans son esprit. Mais ici, généralement, on a l'habitude de sauter l'étape de la maternelle, on injecte directement l'enfant au CP1. Or, on dit école obligatoire CP1. Alors que si déjà on avait commencé un peu plus bas à la maternelle, ça allait améliorer certaines compétences cognitives pour que l'enfant soit plus performants déjà partis du CP1.
D'accord, alors je voulais qu'on voit ensemble un point qui a été soulevé tout à l'heure par M. Zamblé, qui nous appelait de Oumé, qui criait son ras-le-bol en indiquant par exemple que les enfants ne savent plus écrire parce qu'on leur demande d'écouter le son plutôt que de travailler l'orthographe. Alors, je voudrais juste rappeler pour les auditrices et auditeurs que vous pouvez aussi réagir pour donc votre contribution à ce débat qui porte donc sur le rapport PASEC 2019 qui juge un peu, n'est-ce pas, la qualité des systèmes éducatifs en Afrique subsaharienne francophone. Alors, cette option-là, comment vous, je voudrais commencer par M. Kwame Paulin Junior parce que vous êtes donc d'une association pour la promotion de l'éducation pour tous. L'éducation pour tous d'abord, avant d'en venir à M. Nou, qui lui est membre donc de l'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Comment vous avez accueilli cette option de dire, bon, l'enfant c'est plus le son que l'orthographe. Donc je peux écrire par exemple, comme on le fait, occupé, on écrit notre occupé quand on est pressé, occupé.
Au capé.
Voilà, occupé. Comment vous jugez ça, vous appréciez ça M. Kwame Paulin?
Oui, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est, ça pose un problème plus large qui concerne ce qu'on va appeler donc les approches pédagogiques utilisées donc dans notre système éducatif. En deux décennies, nous sommes passés à trois approches différentes.
En deux décennies. Pour vous, c'est trop?
Non, c'est trop. Surtout qu'il n'y a pas eu d'évaluation véritable en réalité. Parce qu'au départ, nous étions avec la PPO. Et un matin, on nous dit qu'il faut passer donc à une autre approche, la FPC. L'approche par compétence. Après, ça a été l'APC. Après, ça a été l'APC recadé. Et vous vous retrouvez dans une même école avec des enseignants qui pratiquent des approches différentes.
Exactement.
Selon qu'il est ancien ou selon qu'il sorte donc du CAFOP ou de l'INS. Tout ça, ça embrouille le système. Et c'est dans cette mouvance-là que vous avez donc la suppression de la dictée, etc. Beaucoup de réformes qui, véritablement, n'ont pas été, on va dire, faites avec donc un consensus.
Peut-être que ça a été précipité un peu.
Oui, ça dit qu'en toute chose, il faut utiliser les formes. On a une approche, on l'utilise, au bout d'un temps, on l'évalue, on associe donc les partenaires, tous les partenaires, ensemble donc, on regarde donc les résultats donc de l'évaluation, et ensemble, on essaie donc de trouver les pistes pour avancer. Soit, on abandonne carrément donc l'approche pour une nouvelle qui a véritablement fait ses preuves, par rapport donc à un certain nombre de paramètres, soit, on améliore un peu ce qui était juste en ajustant certains mécanismes qui n'allaient pas. Mais ça n'a pas été fait en Côte d'Ivoire. Et ça fait que ça a eu une répercussion sur les enseignants eux-mêmes. Parce que beaucoup ne maîtrisaient pas les approches qu'ils utilisaient.
En parenthèse, on se souvient aussi de l'épisode des manuels scolaires avec des fautes.
Avec des fautes
à l'intérieur. Alors, M. Nou Bakayoko, vous qui êtes membre de l'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, comme disait M. Kwame Paulin tout à l'heure, trois approches pédagogiques en un laps de temps qu'il a jugé court. Comment vous, au niveau des parents d'élèves, vous appréciez aussi ces changements successifs dans l'approche pédagogique?
Bon, en fait, ce sont des réformes qui n'ont rien formé, en fait. Parce que quand on voit une réforme, on dit, on passe de FPC, APC, APC, recadré, etc. Vous voyez, l'élève déjà commence la scolarité avec une méthode.
Donc, à laquelle il commence à s'habituer.
Voilà, commence à s'habituer. Et à la fin, déjà, on envoie une autre méthode. Il ne va pas se retrouver. Même les enseignants, eux-mêmes, ne se retrouvent pas. Donc, vous voyez un peu. Et au-delà de ça, moi, le psychologue que je suis, il y a un problème. Parce qu'il y a des maladies liées à l'apprentissage, en fait, que les gens ne voient pas. Et c'est compliqué. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les troubles 10. On a la dyslexie, problème de lecture. On a la dyscalculie, problème de calcul, dysorthographie. On a dyspraxie. Donc, ce sont des maladies, en fait, que l'enfant développe. Et en Côte d'Ivoire, on annule la dictée et même la lecture syllabique. C'est rare de voir les élèves aujourd'hui à l'école voir bo a ba bo o bo.
Donc du coup, on trouve que c'est de notre âge.
Or, l'âge nouveau qui est là, on voit un peu les résultats de cet âge nouveau là. On peut changer quelque chose, mais ce qui permet à la personne d'acquérir une compétence ajoutée, une compétence vraiment plus probable, mais il ne faudrait pas l'annuler. On peut la greffer, mais il ne faudrait pas carrément l'annuler. On a annulé la dictée et on n'a pas tenu compte des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui sont arrivées. Vous voyez, donc on annule la dictée. Pourtant, on sait qu'actuellement, les enfants communiquent par SMS à travers un langage assez codé. Donc, quand il s'est intégré le fait que c'est le son qui compte, mais pour lui, ce n'est pas une faute qu'il envoie, par exemple, tu fais quoi, TFK? Donc, il y a problème.
Ou bien UFK.
Ou bien UFK.
Bon, moi, j'apprends ça souvent. Hein.
Ou bien mais UFK. Donc, déjà, il y a ce problème-là qu'il faut revoir, en fait.
Alors, on se rappelle, si je ne m'abuse, hein, M. Kwame, à l'époque, les dictées préparées, c'était très courant. Elles étaient du moins très courantes. Et puis, c'était les mercredis. Hein.
Oui,
Non, l'instituteur vient, il copie au tableau, oui, on fait lire et puis après on cache, on voile.
Tout à fait.
Et puis il fait la dictée.
Tout à fait. Et ça faisait que l'élève était obligé de lire.
Mm-hmm. Obligé
de lire. De lire. Et souvent donc aller dans le dictionnaire pour voir la signification des mots, etc. etc., etc., etc. Et c'était instructif.
On a eu des ouvrages de référence comme par exemple la collection des livres du soleil.
Tout à fait. Tout à fait.
Bon, ok. Il y a des bons souvenirs là.
Il y a quelque chose d'important.
Je vous en prie, monsieur Noubakayoko.
Vraiment très important. Vous savez, dans tout apprentissage, surtout avec les enfants, on a la mémoire. Donc la mémoire, c'est la rétention. C'est cette rétention-là qui permet de pouvoir rendre ce qu'on t'a appris. Donc on a ce qu'on appelle la mémoire visuelle, la mémoire auditive et puis la mémoire kinesthésique. Mm-hmm. Regardez par exemple, il n'y a plus de dictée préparée, on n'écrit plus. Donc l'enfant, il apprend comment les nouveaux mots.
Peut-être à l'oreille, à l'écoute.
Oui, je viens. Il apprend comment les nouveaux mots. Parce qu'un mot, pour le réécrire, il ne faut pas seulement l'écouter, mais plutôt il faut le voir. Il faut le voir. Donc, on a la mémoire auditive. Et cette mémoire auditive-là n'est pas cette mémoire pratique. Parce qu'on peut entendre, mais est-ce que ce qu'on va écrire là, c'est réellement ce qu'on a entendu? Par exemple, quand on écrit femme, l'orthographe est vraiment différent de ce que les enfants entendent. Donc, il y a aussi ce ça qu'il faut développer. On ne met pas tout ça à la disposition des enfants et on veut qu'ils fassent des miracles.
On a un auditeur. Voilà, on va le prendre. Allô?
Oui, allô.
Monsieur, bonjour.
Oui, c'est Conan Julien Soukro.
Ah oui, cher ami, comment allez-vous?
Oui, ça va.
D'accord, nous suivons votre contribution, s'il vous plaît.
Moi, ce problème, je pense que le gouvernement ou le ministère même ne prend pas en compte les critiques qu'on apporte. Et j'ai écouté sur la radio de la paix le monsieur qui a parlé pour l'interview, là.
Oui.
Vous voyez, il a rejeté même le rapport. Vous dites que c'est faux, ils ont quoi contre la Côte d'Ivoire? En fait, si on arrive à prendre les critiques en compte, on pourrait se remettre en cause. Mais le problème de ce ministère, on ne comprend pas ce qu'il en est. Il faudrait que le ministère prenne en charge les critiques. Et puis, tout ce qu'on est en train de dire, ils pensent que ceux-mêmes qui sont concernés ne prennent pas ça en compte. C'est cela le problème.
Merci beaucoup, M. Kona. Donc, votre remarque principale, c'est ça. Vous avez le sentiment que le ministère de tutelle ne prend pas en compte les critiques, mais peut-être se justifie trop.
Oui, oui. Il se justifie au lieu de se remettre en cause.
En question. D'accord, ok. Merci beaucoup. On retient ça. Je voudrais rappeler à mes auditrices auditeurs qui nous suivent que vous êtes donc à notre espace sujet de discussion. Nous parlons donc aujourd'hui du PASEC 2019, donc ce rapport qui est édité depuis quelques années maintenant. Édité principalement par la COFEMEN, savoir la Conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la Francophonie. Et donc, ce rapport PASEC 2019 n'offre pas une bonne position de la Côte d'Ivoire. Pour en parler, donc, nous recevons aujourd'hui en studio M. Noubakayoko et Kwame Paulin Junior, respectivement psychologue et membre de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire et coordonnateur du secrétariat exécutif du réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous. Alors, on va écouter tout à l'heure un extrait aussi de l'intervention à valeur d'explication, de justification du directeur de cabinet de Madame la ministre, M. Assoumou Kaban, tout à l'heure. Mais avant cela, une réaction aussi à ce que l'auditeur de Oumé vient de dire. Il a le sentiment que le ministère de tutelle donne le sentiment, à son avis, de ne pas prendre en compte les critiques, de ne pas prendre en considération les critiques.
Bon,
Monsieur Kwame.
Oui, bon, en fait, parce que ce sentiment découle de ce qu'il a entendu, effectivement. Mmh. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas entendu, celle que vous avez présenté, on n'a pas entendu l'intervenant indiquer qu'il y avait donc des failles et qu'il fallait donc qu'on puisse donc les régler, s'asseoir avec les acteurs pour essayer donc ensemble. Parce qu'il ne faut pas aussi penser que toute la faute incombe au ministère. Hein.
C'est
une erreur de croire que c'est le ministère à lui seul qui pourra donc régler les problèmes. Non, c'est pour ça qu'on parle de système en fait. Un système, c'est plusieurs entités qui interagissent. Et donc, quand ça ne va pas, certainement que chaque entité a quelque chose à apporter pour que ça puisse aller dans le
Alors, on va y arriver effectivement sur ce point en fin d'émission tout à l'heure, parce qu'on a un extrait aussi de M. Assoumou Kaban qui effectivement relève ces aspects. Et tout à l'heure, plus haut, M. Noubakayoko en parlait, l'implication aussi des parents, leur part de responsabilité. Mais je voudrais déjà, c'est vrai qu'on a parlé, en nous appuyant, n'est-ce pas, sur le résumé exécutif de ce rapport PASEC 2019, on a parlé donc de la compétence en langue. Je voudrais lire un extrait. En ce qui concerne donc le volet mathématique, parce que c'était l'un des deux grands axes que donc visait ce rapport, en dehors des compétences même des enseignants, hein, parce qu'une des innovations de ce rapport, c'est aussi au niveau de ceux-même qui dispensent la connaissance. Alors il a dit ceci, je cite, à la page 16 du résumé exécutif du rapport PASEC 2019, En mathématiques, plus de 60% des élèves de fin de primaire sont en dessous du seuil suffisant de compétences. Ces élèves rencontrent des difficultés pour répondre à des questions brèves relatives aux trois processus cognitifs pris en compte dans le test de mathématiques de l'évaluation PASEC 19. 1. Connaître. 2. Appliquer. 3. Résoudre des problèmes. Par ailleurs, ces élèves parviennent très difficilement à réaliser des opérations élémentaires avec les nombreux décimaux, donc de façon générale. Mais de façon spécifique, le rapport dit ceci, nous citons encore, le Gabon, 66,7%, le Sénégal, 65%, le Burkina Faso, 62,5%, et le Burundi, 60,9%, constituent les seuls pays à hisser la grande majorité de leurs élèves au-dessus du seuil suffisant de compétences en mathématiques. Cependant, dans de nombreux pays, environ un tiers des élèves situés sous le niveau 1 de l'échelle connaissent de très grandes difficultés en mathématiques pouvant les exposer au décrochage scolaire. Le Tchad, 50,8%, le Niger, 43,7%, la Côte d'Ivoire, 42,1%, la RDC, 37,2%, Madagascar, 36%, le Togo, 32,1% et le Cameroun, 30,1%. Fin de citation. Donc, côté mathématiques, ce n'est pas très reluisant non plus. Mais une chose a attiré mon attention dans cet extrait, c'est qu'il a dit que ces élèves donc présentent de très grandes difficultés en mathématiques, pouvant les exposer au décrochage scolaire. Donc le risque est que l'enfant même raccroche au primaire.
Oui, oui.
Qu'il abandonne.
Oui, qu'il abandonne carrément. Parce que vous avez parlé des processus cognitifs. Mm-hmm. On a connaître, on a appliqué, puis on a résoudre des problèmes.
Exactement.
Vous voyez, il y a des tests psychologiques qui nous permettent, par exemple, de mesurer la capacité de l'enfant à se représenter dans l'espace, la capacité de l'enfant à concevoir des choses et la capacité de l'enfant à résoudre des problèmes. Mm-hmm. Et à travers la mathématique, effectivement, on voit ce volet-là. Et quand cet aspect-là n'est pas réglé, bien encadré, effectivement, devant, l'enfant va se retrouver à d'autres problèmes qui vont s'accumuler. Il sera obligé de décrocher parce que la base n'a pas été fondée.
Ouais. Et là, maintenant, la grosse question qui va se poser, est-ce qu'il pourra trouver, n'est-ce pas, un petit espace dans le tissu économique pour faire sa petite vie après? On a un auditeur, on va le prendre et puis en venir à M. Kwame Paulin Junior, sûrement pour une réaction sur ce point aussi. Allô?
Allô, allô, bonjour, M. Sipotin.
Oui, cher ami, la voix m'est familière.
Oui, oui, ici Abou Traoré, je vous appelle de Korogo.
Exactement, cher ami Abou, oui, nous vous suivons depuis Korogo.
Oui, oui, je salue les invités.
Oui.
Je pense que le problème de l'école ivoirienne ne date pas d'aujourd'hui, hein. Le niveau baisse davantage. Je pense que nos autorités doivent essayer vraiment de prendre leurs responsabilités, ou bien c'est un business qui est fait sur le dos des parents d'élèves. Puisque il se trouve que c'est le collège privé seulement qu'on l'a construit, pendant que dans le public, les élèves sont 100 et quelques dans les classes. Bon, c'est pas facile pour avoir vraiment de vraie éducation dans ces conditions-là.
Mmh.
Moi, je pense que ça se trouve à ce niveau, et puis les enseignants, la faiblesse des enseignants. L'homme de Oumé a bien dit, monsieur l'enseignant le retraité, il a dit la vérité, il sait de quoi il parle. Le niveau de recrutement des enseignants est très bas, ça fait que nos élèves, vraiment, nous ne savons plus où nous allons. Mais cela ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je pense que nos autorités, vraiment, aient pitié de nous, qu'ils essayent de voir. Les gens payent les trucs des enfants, après, au final, vraiment, c'est des enfants nuls, hein, je ne vois pas, je ne comprends rien.
D'accord.
Je vous remercie et bonne émission.
Voilà, merci beaucoup, cher ami Abou Traoré. C'est nous qui vous remercions de votre fidélité à la Radio de la Paix et aussi avoir donc apporté votre contribution à cet échange. Alors, monsieur Abou Traoré rejoint l'auditeur de Oumé par rapport au niveau du recrutement quant aux enseignants, mais aussi, hein, il a dit carrément qu'eux, en tant que parents d'élèves, ont l'impression que le ministère peut-être les délaisse quelque peu quant aux options qui se présentent à eux pour la scolarisation des enfants.
Bon, en fait, par rapport donc au niveau de recrutement
des enseignants,
des enseignants, nous pensons qu'il faut que le recrutement soit de qualité, un recrutement transparent et crédible surtout.
Vous trouvez qu'il y a peut-être un peu d'opacité?
Au minimum, il y a beaucoup de bruit autour.
Non, vous parlez de bruit. Opacité ou bruit, M. Kwame?
Non, en fait,
on a fait le procès de personne, oui, mais parlons avec franchise.
Oui, en fait... On a des cas avérés, parce que nous sommes sur le terrain, nous avons des cas avérés.
Voilà pour vous inviter.
Voilà, nous avons des cas avérés de personnes donc, qui sont admises donc, au concours et sur le terrain, vraiment qui ont véritablement beaucoup de difficultés.
C'est même qui sont censés transmettre le
tout à fait, la connaissance. Tout
à fait. Voilà. Donc, à ce niveau-là, il faudrait vraiment que le recrutement soit propre, soit bien fait, et que la formation aussi soit bien faite, la durée de formation soit bien faite, qu'il y ait un suivi à la sortie.
Mm-hmm.
Parce que le rapport aussi pointe là du doigt.
Exactement, oui, je cherche le point.
En termes
oui.
d'encadrement des enseignants sur le terrain.
D'encadrement d'enseignants.
C'est pas parfait.
Mm-hmm.
Alors qu'en pédagogie, le temps est important. C'est-à-dire que quand vous sortez d'une école de formation pédagogique, les premières années, très souvent vous tâtonnez. Parce qu'il n'y a pas encore ces réflexes-là,
ces réflexes
qui vous permettent donc de pouvoir
réagir. Cette confiance naît avec la pratique.
Voilà. Mais c'est avec le temps que l'enseignant véritablement devient...
Alors, je vais corroborer, appuyer vos propos, parce que là, je suis tombé pile sur la page.
Oui.
On va prendre l'auditeur tout à l'heure, juste une minute, on va le prendre tout à l'heure, mais juste donc, pour appuyer ce que M. Kwame vient de dire par rapport au niveau académique et l'expérience professionnelle associée à de meilleurs scores. Il est dit ici, selon le rapport PASSEC 2019, page 20, je cite, hein, « Les résultats les plus marquants de l'analyse des caractéristiques, connaissances et compétences des enseignants se rapportent à leur score en fonction de leur ancienneté, de leur niveau de formation académique et de leur participation à des formations continues. Il ressort d'une part que les enseignants ayant un niveau de formation universitaire présentent de meilleurs scores aux épreuves de l'enquête que ceux ayant un niveau secondaire et d'autre part que les enseignants déclarant avoir une longue expérience d'enseignement entre 11 et 20 ans performent mieux que leurs collègues moins expérimentés au plus 5 ans. » C'est clair?
Non, c'est clair. C'est
d'accord.
Clair.
Monsieur Nou Bakayoko, sur ce point, oui. Vous voulez intervenir aussi sur le point par rapport aux enseignants, la qualité des enseignants qui sont formés, tout ça?
Oui, mais ce qui est bien, ce serait déjà de faire le renforcement des capacités des enseignants
oui.
pendant les vacances. Voilà, de faire leur renforcement de capacités et essayer de renforcer un peu le contenu de la formation de ceux qui sont encore à l'école.
On va écouter à présent un extrait de l'intervention aussi mise en ligne sur la page Facebook du ministère de l'Éducation nationale. Un extrait donc du directeur de cabinet de Madame la ministre, à savoir M. Assoumou Cabran, qui lui donc, dans cet extrait, il salue la réaction des populations. Il précise que la Côte d'Ivoire investit beaucoup dans l'éducation. Avant d'interpeller les parents d'élèves, nous écoutons M. Assoumou.
Nous avons noté que après la diffusion du rapport du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN, le PASSEC, beaucoup de nos concitoyens ont fait des commentaires sur la performance du système éducatif de Côte d'Ivoire. Je me réjouis d'abord de l'intérêt que les uns et les autres accordent à notre système, parce qu'en réalité, c'est notre affaire commune. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, il faudrait bien lire et comprendre que quand on prend nos performances de 2014, que ce soit en lecture comme en mathématiques, nous avons noté une évolution. Parce qu'en réalité, pour que nous puissions bien apprécier les performances, il faut mettre un ensemble de facteurs en jeu. Il se trouve que dans la sous-région, dans l'espace francophone du PASSEC, la Côte d'Ivoire est le pays qui investit le plus en matière d'éducation. Malheureusement, ce que nous avons noté, c'est que le ministère fait sa part. Mais là où nous pêchons, c'est que le suivi des élèves, l'accompagnement nécessaire des parents, souvent laisse à désirer. En réalité, pour qu'un élève réussisse, il y a deux facteurs de façon principale. Il y a devant lui, il y a le guide, c'est-à-dire le maître. C'est lui qui indique à cet enfant, en fonction de son niveau de performance, la voie idoine pour que cet enfant puisse se réaliser dans la vie. Mais derrière lui, il y a le contrefort familial. C'est la cellule familiale qui encadre cet enfant-là, quand il sort de l'école. Parce que n'oublions pas que chaque enfant a deux statuts. Il est d'abord l'enfant d'une famille, et quand il arrive à l'école, il endosse le deuxième statut, celui d'élève. Le côté enfant devrait être un peu mieux regardé que ce que nous faisons, parce qu'il faut absolument que les parents veillent à l'encadrement, au suivi du travail de leurs enfants à la maison.
Voilà, maintenant d'écouter M. Cabran Soumou, je rappelle donc au directeur de cabinet de Mme la ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Alors, son diagnostic est clair, hein? Il indique clairement que le ministère fait sa part, mais au niveau des parents d'élèves, ça pêche. Il faut qu'ils jouent leur partition aussi. Vous partagez cet avis?
Oui, le ministère fait son travail, mais il y a des failles. Le ministère doit prendre ça en considération. Maintenant, pour les parents d'élèves, ce que nous disons déjà à chaque parent, c'est que c'est vrai, le rapport montre qu'il y a des failles. Le rapport montre que le système ne va pas. Donc, chaque parent déjà a son enfant. Donc, chaque parent doit saisir déjà l'éducation de son enfant pour que chaque élément éducative puisse être renforcée au niveau de son enfant déjà.
Monsieur, Kwame, votre réaction. On va y arriver aux recommandations, okay, ne vous inquiétez pas.
Oui, ce que le DICAB a dit, monsieur DICAB a dit, il a dit qu'il y avait deux
niveaux de responsabilité. Niveaux.
Non, il y en a plus. Il y en a plus. Parce qu'il n'y a pas que les enseignants et les parents. Il y a aussi donc le ministère qui doit aussi donc créer les conditions. Parce qu'un enseignant, même s'il est bien formé, qui n'a pas le matériel nécessaire, il ne pourra pas donner le meilleur de lui-même. Un enseignant, s'il est bien formé, qu'il est en face donc, de 120 élèves, il ne peut pas appliquer ce qu'il a appris à l'école. Donc, c'est vraiment un ensemble, c'est un tout qu'il faut donc regarder. Certes, le ministère donc, apporte de l'argent, mais il faut aller au-delà de cela. Parce que quand vous regardez donc, la nomenclature donc, des montants injectés, il n'y a seulement qu'à peine 10% pour les infrastructures.
10%.
10%.
Oui, parce que là, M. Cabran Soumou a dit clairement que la Côte d'Ivoire est l'un des pays qui investit beaucoup dans l'éducation. Donc, vous, c'est surtout orienté
sur les salaires.
Investissements là dans les secteurs.
Vous avez 70% qui va donc au salaire et à peine 10% pour l'investissement.
D'accord. Alors, sur ce point aussi, à nouveau, je voudrais appuyer vos dires avec un extrait donc, du résumé exécutif du PASEC 2019 qui dit ceci, en rapport avec, n'est-ce pas, les conditions de travail. Ce n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire, de façon générale, l'enquête. Il a dit ceci, au niveau de leurs conditions de travail, les enseignants ont une perception globalement satisfaisante des programmes scolaires. Cependant, leur regard sur la qualité des bâtiments et la disponibilité des fournitures scolaires est négatif dans la majorité des pays. Et plus loin, il a dit, dans l'ensemble des pays, ils, c'est-à-dire les enseignants, ont dans leur très grande majorité une perception moins satisfaite de leurs conditions salariales. Il en est de même au sujet des opportunités de formation et de promotion de carrière. Donc, pour illustrer donc avec cet extrait les propos de M. Kwame Poulin-Junior. Alors, on va terminer avec les recommandations. Je vais d'abord lire les 7 recommandations du rapport PASEC.
Oui, oui,
et puis vous passez la parole de tour à tour. Il y a 7 recommandations du rapport PASEC 2019 qui dit ceci. 1. Poursuivre les politiques de développement de l'enseignement préscolaire. 2. Poursuivre les initiatives nationales d'articulation entre langue d'enseignement et langue maternelle en début de scolarité. 3. Mettre en place ou renforcer les mesures et ou activités d'adaptation scolaire en faveur des élèves en difficulté d'apprentissage. 4. Améliorer la qualité, la disponibilité et la location des équipements scolaires et des ressources éducatives. 5. Mettre en place les mesures scolaires favorables à l'amélioration de la performance des filles en mathématiques et approfondir la connaissance des facteurs contextuels y afférents. 6. Réaliser une évaluation des expériences ou des dispositifs nationaux de formation continue et axer les politiques et les stratégies nationales de formation initiale et continue sur les besoins et les profits des enseignants. Et enfin, 7. Favoriser la professionnalisation de la fonction enseignante par les mesures appropriées. Messieurs, tour de table pour finir. Les recommandations du rapport PASEC, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous souhaiteriez y ajouter par rapport au cas spécifique de la Côte d'Ivoire dont vous êtes des acteurs de premier choix? On va commencer par M. Nour Bakayoko, qui est donc psychologue et membre de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire.
Effectivement, ils ont fait une évaluation, ils ont fait les recommandations par rapport à l'évaluation qu'ils ont eu à faire. Et c'est vraiment intéressant si on essaie de mettre en pratique ces recommandations-là. Maintenant, ce que nous ajoutons, c'est que l'élève, c'est un package complet. Ce n'est pas un individu seulement à qui on doit donner la connaissance. Il y a beaucoup d'autres formes d'intelligence qu'il doit développer. Donc déjà, nous proposons que l'État déjà pense à recruter des psychologues à l'école primaire parce que c'est là-bas que se construit l'être. L'enseignant va lui donner la connaissance, le psychologue va l'aider à s'acquérir cette connaissance-là et puis essayer de dépoussiérer un peu tout ce qui est problème de personnalité, de troubles, de lecture, etc. autour de lui. La deuxième proposition déjà, c'est qu'on pense à ramener à l'école la dictée, la lecture syllabique. Maintenant, la troisième proposition, c'est que le ministère de l'Éducation nationale puisse penser à associer l'association des parents d'élèves à certaines prises de décision parce que c'est cette association-là qui est au quotidien sur le terrain avec les parents d'élèves, avec les enfants et avec les autres acteurs. Et puis essayer de revoir la formation des enseignants. De nos enseignants.
Merci beaucoup, M. Nour Bakayoko. M. Kwame Poulin-Junior, votre mot aussi.
Oui, ce qui a été donc dit dans le rapport qui concerne pratiquement donc les 14 pays,
c'est ça.
Nous voulons ajouter 3 éléments spécifiques à la Côte d'Ivoire. La première, c'est la question donc, de la redevabilité. En Côte d'Ivoire, dans notre système, il n'existe pas encore donc, de contrat de performance entre les différents acteurs et le ministère. C'est-à-dire qu'on nomme quelqu'un à un poste, mais il n'y a pas un contrat qui le lie. Qu'est-ce qu'il doit faire? Quel objectif il doit atteindre au bout d'un certain nombre de temps, etc., etc., etc. Et ça, il faut que ça existe.
C'est comme s'il n'y avait pas de TDR avant de recruter les thèmes de référence. Tout à fait.
Oui, okay. Il y a des TDR, mais nous, c'est appliqué.
Nous croyons savoir que c'est en cours d'élaboration. Et vraiment, nous encourageons le ministère à véritablement donc élaborer donc ces contrats de performance-là pour que chacun ait un objectif donc à atteindre. Ensuite, il y a la question de l'éducation parentale qui est contenue donc dans le plan sectoriel 2016-2025. Il est question de pouvoir donc renforcer les capacités donc des parents afin qu'ils puissent donc jouer un certain nombre donc de rôles à la maison, en termes de suivi auprès donc de leurs enfants. C'est important et il faut que donc cette éducation parentale-là donc soit véritablement donc mise en œuvre. Enfin, il y a les questions donc de grève. Vous avez donc le Conseil consultatif d'éducation nationale qui existe, qui est un organe, donc un cadre d'échange entre donc les acteurs. Mais nous pensons que cet organe-là n'a pas véritablement donc les coudées franches pour travailler. Ça fait que ce n'est pas un organe qui est proactif. Et de notre point de vue, cet organe doit être proactif, de sorte à pouvoir donc anticiper sur les mouvements, sur les grèves, sur l'arrêt de travail. Parce que les rapports indiquent aussi que cela impacte sur les apprentissages.
Merci beaucoup à vous. Merci grandement, messieurs Nouba Kayoko, Kwame Paulin et Junior, respectivement psychologue et membre de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire et coordonnateur du secrétariat exécutif du réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous. Je rappelle à mes auditeurs et auditeurs que nous les recevions donc dans notre espace sujet de discussion pour parler du rapport PASSEC 2019 qui a fait et continue de faire couler beaucoup d'encre en Côte d'Ivoire. Et nous rappelons donc que ce rapport PASSEC a été mis en place en 1991 par la Conférence des ministres de l'Éducation des États et Gouvernements de la Francophonie, en abrégé COFEMEN, le programme d'analyse donc des systèmes éducatifs de la COFEMEN, en abrégé PASSEC, afin de permettre, n'est-ce pas, une évaluation, mais aussi de permettre performance de ces différents systèmes éducatifs en termes de qualité. Merci à vous, messieurs. Merci à mes auditrices et auditeurs de nous avoir suivis. Et en guise d'au revoir, pour rester dans le ton de ce sujet, donc de discussion qui est très actuelle, on va écouter un artiste ivoirien qui avait déjà fustigé en son temps les manques de l'école ivoirienne, l'artiste Fitini.
C'était sujet de discussion.